Marseille accueille le Congrès mondial de la nature du 3 au 11 septembre 2021. À cette occasion, nous vous proposons un podcast spécial, 4 épisodes sur mesure, 4 thèmes qui s'inspirent du Congrès mondial UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes allés à la rencontre des habitants locaux qui aiment, connaissent et protègent la région Provence-Alpes Côte d'Azur tout au long de l'année. Le thème de cet épisode, la mer. De Marseille jusqu'à Nice, la mer est cette amie, toujours présente, parfois furibonde, souvent tranquille et toujours belle. Elle accompagne la vie des habitants depuis des millénaires. Nous sommes allés à leur rencontre pour qu'ils nous parlent de ses rivages, de ses fonds marins, des dangers qui la guettent et surtout de leur expérience personnelle avec la Méditerranée. Nos interlocuteurs aujourd'hui, Marie, une Marseillaise qui a la mer chevillée au corps, Isabelle Poitou, une écologue qui veut faire la différence, et Chantal Di Meglio, une mordue de la plongée depuis 40 ans.
Comme une planète en Provence, un podcast de Dialogue RCF à l'occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille.
La mer, c'est d'abord un ressenti. Marie est marseillaise, la Méditerranée, elle l'a dans la peau.
La mer, c'est tout, c'est voir l'horizon, le coucher de soleil sur la mer, les vagues, c'est l'odeur du sel, le bruit, tout, quoi, tout, c'est vivifiant, c'est ça, je pourrais pas vivre sans, quoi. Ça fait partie de mes meilleurs moments quand on attend jusqu'à la tombée de la nuit pour passer les belles soirées d'été dans l'eau et manger sur la plage. Je ne pourrais pas plus m'en passer là maintenant. Alors quand on partait en vacances, c'était pendant les grandes vacances, les 2 mois d'été. En fait, on partait avec notre grand-père qui avait un petit cabanon à Carry, le Rouet. Alors, c'était la grande expédition pour les vacances parce qu'on partait sans les parents. Il fallait charger la voiture. Donc, mes parents avaient préparé les conserves de légumes, toutes nos affaires pour 2 mois. La voiture était chargée tant et plus. Donc du coup, on partait, on prenait la vieille nationale qui part de Marseille, on passait par l'Estac. Sur le chemin, nous, on avait pris nos repères toutes les années. Et en fait, quand on avait passé l'Estac, il y avait le fameux pont le pont après la sortie de l'Estac. À l'époque, justement, toutes les voitures, quand celles qui rentraient sortaient du pont, l'amusement c'était que tout le monde klaxonne. Donc on faisait un concert, chacun avait ses klaxons, mais avant on avait des klaxons en forme de cornes, de tous les sons de différentes sortes, et on faisait le concert. Et d'ailleurs c'est pour ça que maintenant vous voyez défense de klaxonner dans ce pont, parce que c'était infernal. Donc là, allez pépé, vas-y, klaxonne, klaxonne. Déjà, on se rapprochait de Carry. Après, on passait par le Rove. Et dans le vieux village, avant, il y avait, là maintenant, il y a beaucoup de, c'est tout construit. Mais en fait, les chèvres du Rove étaient sur l'ancienne route du Rove. Et quand on voyait les chèvres aussi, c'est pareil. On se disait, ça y est, bientôt on est arrivé. Après, on rentrait dans Carry, la grande descente là, avec le monument aux morts. Et finalement, on allait jusqu'à la Tulière et on arrivait au petit cabanon. Alors là, c'est pareil, on arrivait, allez Pépé, arrêtez, aidez-moi à déballer. Non, sors-nous les vélos. Il fallait sortir les vélos, les affaires de la mer, les bouées. Donc on voulait tout de suite pour aller à la mer, vite. Et il n'en pouvait plus de nous. En plus, on se retrouvait avec nos cousins, donc ce qui fait qu'on était 4 enfants. Alors après, pour aller à la mer, c'était pareil, l'expédition, on était 4. On avait les pneus, les gros pneus de camion. On descendait avec les gros pneus, ils étaient plus gros que nous. On avait les sandwichs aussi. Mon grand-père venait avec nous le matin. Et du coup, nous, on était tout le temps dans l'eau, tout ça et tout. Puis après, il nous appelait, allez, sortez de l'eau, on va manger. Et nous, on s'en foutait, on pouvait pas manger. Il nous criait de suite. Après, c'est l'après-midi, il voulait nous montrer comment nous apprendre à nager. Donc il allait sur une digue. Alors il se mettait, c'était un ancien sportif. Alors il se mettait, on avait honte quoi, du grand-père, le pauvre. Il se mettait au bout de la jetée et il faisait les gestes pour plonger. Alors il joignait ses deux mains, il nous expliquait de mettre la tête bien entre les coudes. Et alors nous, on était dans l'eau, on disait, allez, vas-y, Pépé, plonge. Ah non. Et après, voilà, ils nous montraient. Après, nous, on ne savait pas. Alors du coup, on plongeait tous en bombe. Ah, j'en ai marre de vous, vous ne voulez rien apprendre. En fait, c'était le gros gag. Il avait un petit bateau, il avait une petite barque de... un pointu, quoi. Quand après, il a vendu. Mais... Et donc, lui, il a été un des premiers à avoir une place au port avec son petit pointu. Donc, il a connu Carry, en fait, dans les années 50, quoi. Donc, pour lui, c'était chez lui, quoi. Enfin, il avait toujours vécu comme ça. Et il avait du mal, après, à s'habituer, à voir... là, il faut pas se mettre là. Là, il faut faire un... Enfin, se mettez où il voulait. Et voilà.
Avec les anges si purs, la mer.
Isabelle Poitou est écologue, c'est la fondatrice de l'association Mère Terre à Marseille qui fédère en un réseau national les associations environnementales pour étudier scientifiquement les déchets et pouvoir influencer les politiques publiques.
Un mégot qui est retrouvé ici sur la plage de la Maronnaise peut venir de Lyon ou de Genève.
Pourquoi ?
Parce que quand il pleut fort, les pluies vont lessiver les rues qui vont ensuite rejoindre les cours d'eau et le Rhône qui est le grand rassembleur du bassin versant Rhône-Méditerranée-Corse et ça vient descendre ensuite dans la baie de Marseille. Quand on a du Mistral, les déchets flottants viennent s'échouer sur les plages de Marseille. Le plus difficile, c'est la diversité des plastiques, c'est-à-dire que les industriels ont inventé des adjuvants, des molécules chimiques qui viennent complexifier les solutions de recyclage et de valorisation. Il y a des milliers de types de plastique, en vrai. On parle du plastique, mais c'est des milliers de sortes de plastique. Donc il y a une nécessité d'homogénéiser, de réglementer les contenus, la fabrication, qu'est-ce qui compose ces plastiques.
Pourquoi ?
Afin de simplifier le recyclage et la valorisation, que le coût soit intéressant, c'est-à-dire qu'ensuite, si ça coûte trop cher, évidemment, on n'y arrivera jamais à recycler ce plastique. Donc il faut qu'ensemble, on fasse tous des efforts pour être intelligents et répondre aux problèmes et aux défis qui sont devant nous. En fait, du fait de cette complexité de la composition des plastiques, le recyclage est très complexe. Comme vous voyez, aujourd'hui, on recycle facilement les bouteilles, les bouchons, parce qu'on sait que c'est du polyéthylène, du polypropylène. Ça, c'est facile. Mais aujourd'hui, sortent des types de plastiques avec plusieurs couches, avec des encres. Et en fait, derrière, c'est une industrie, des process qui sont très compliqués. L'année dernière, on a ramassé 83 mètres cubes. C'était la crise, il n'y avait que 52 structures. L'année d'avant, il y avait 123 ou 134 mètres cubes et c'était plus de 80 structures. Donc cette année, on est encore plus de 80 structures. On verra combien on ramassera. Sur cette zone-là, l'année dernière, c'était 4 mètres cubes. Les fois d'avant, c'était 8 mètres cubes. Donc on a diminué en quantité. Il y a plus de nettoyage qu'avant. Il y a plus de gens qui nettoient. Il y a une modification des comportements. Mais on trouve encore qu'il y a beaucoup trop de déchets.
On a une évolution dans les types de déchets. On voit vraiment une diminution des sachets plastiques, des sacs plastiques. C'est là où on voit que des mesures politiques ont des effets concrets. On voit sur les zones sous-marines qui étaient habituellement polluées par les usagers de la mer, qui il y a dans 20 ans, 30 ans, n'avaient pas fait attention. C'est comme ce que je disais, hein. c'est pas malveillant, c'est juste de l'inconscience, du manque de connaissance du problème. Donc les comportements ont changé, les gens de la mer ont vraiment compris et donc on a moins de déchets dans les ports. On voit une évolution, hein. Par contre il y a des couches et des couches et des couches de dizaines et de dizaines d'années, voire de centaines d'années, hein, parce que on a des traces qui datent, surtout à Marseille. Voilà, donc on voit une évolution de certains comportements. Malheureusement, on a une augmentation de la population, une augmentation de la production de plastique, une augmentation... Et on est dans un système qui est en croissance, qui continue à croître. Donc, c'est de cause à effet, évidemment. Aux mêmes causes, les mêmes effets, comme disait Lavoisier, quoi. Ces opérations de nettoyage fédèrent et rassemblent un certain nombre de monde et d'acteurs qui sont engagés parfois depuis bien plus longtemps que Mère Terre. Hein. Calanque Propre, par exemple, a commencé en 1993. Hein. Les premiers mots utilisés de Calanque Propre viennent de l'UCL, Union Calanque Littoral, qui était une association avec Mountain Wilderness. À l'époque, et puis ensuite, c'est un terme qui... C'est-à-dire que ça fait longtemps que des sociétés nautiques, des groupes d'acteurs qui tiennent à leur environnement ont organisé des nettoyages. L'idée de l'association Mère Terre, c'est de les fédérer, de les coordonner et de leur proposer des méthodes de mesure standardisées, de mesures quantitatives et qualitatives pour, encore une fois, faire émerger ce problème à la conscience publique et d'avoir une méthodologie scientifique.
Lecture du psaume 107, versets 23 à 32. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue face au danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Chantal Di Meglio est une mordue des fonds marins. Avec plus de 3000 plongées à son actif aux quatre coins du monde, c'est dans la baie de Marseille qu'elle préfère plonger. Explorer les fonds marins, c'est aussi pour elle une rencontre avec Dieu.
Alors, comment tout ça a commencé ? Comment vous dire ? Moi, au départ, je fais partie d'une famille, enfin, je suis d'une famille marseillaise. Et comme toutes les vieilles familles marseillaises, on aime beaucoup la campagne, mais alors la mer, c'est un danger. Moi, toute ma famille, la mer, oh là là, c'est pour les peu chers, on est loin de la mer. Ma tante raconte toujours, avec ses neveux, traverser le vieux port sur le ferryboat, à genoux devant la bonne mère, en la priant de protéger ses neveux, parce que c'est dangereux la mer. Donc voilà d'où je viens, c'est un peu compliqué. Et puis, il se trouve qu'à 20 ans, j'ai fait la connaissance de mon mari, qui est un poisson. Je pense qu'il va lui pousser des branchies. Et j'étais très amoureuse. Et lui, plongeait. Et je savais que si je voulais faire ma vie avec ce monsieur, ben, il fallait que je me mette à la plongée. Donc ça a été très compliqué pour moi. Parce que ce n'était pas dans mes gènes. Alors j'avais envie. Hein. J'ai toujours beaucoup aimé la mer. Toujours été très attirée par la mer. De toute petite. Et très attirée par la nature. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour faire le lien entre être attiré par la mer et puis aller au fond, s'immerger complètement, ça a été très compliqué. Mais voilà, après on s'y est mis, il se trouve qu'après on est parti vivre 2 ans à l'île de la Réunion et que là on plongeait tous les jours quasiment. Et c'est ce qui m'a permis de démarrer en fait. Et puis après on est rentré à Marseille, donc en 1980. Et depuis 1980, eh bien, on plonge dans la baie de Marseille, à Cassis, et puis aussi dans le monde entier, puisque mon mari fait beaucoup de photos sous-marines, écrit des articles dans des revues sous-marines. Et donc, on a la chance de faire plein de voyages dans le monde entier. On a un petit peu plongé dans le monde entier. Alors, en fait, la première fois, mon baptême de plongée, donc je l'ai fait avec mon futur mari, on est parti de la plage à pied, enfin en marchant, donc doucement dans l'eau à Porquerolles. Et ça a été un moment extraordinaire. Là, j'avais pas peur du tout. On est parti main dans la main, on n'est pas allé très profond, on a dû aller à 5-6 mètres. Mais ça a été extraordinaire. C'est après que les problèmes ont commencé au niveau de la formation. Et là où j'ai commencé à être vraiment, vraiment à l'aise, donc on vivait à La Réunion et c'est une plongée à l'île Maurice où je devais déjà avoir déjà une quarantaine de plongées et où on était sur des tombants de corail, corail noir qui en fait est blanc. Et c'était un émerveillement et à partir de là, je me suis sentie vraiment à l'aise, vraiment bien. Et bien dans l'eau, en fait, quand on plonge... On est au contact des animaux. Et les animaux, quand vous allez en mer, c'est pas comme quand vous allez dans la colline. Si vous allez dans la colline, vous voyez des oiseaux, des lapins, vous arrivez, ils s'enfuient. Quand vous allez dans l'eau, les poissons, ils s'enfuient pas. Ils restent beaucoup plus proches. Et je vais vous parler près de l'évolution un petit peu du parc des Calanques ici à Cassis. J'ai eu beaucoup de rencontres magiques, des rencontres avec des animaux absolument extraordinaires. Par exemple, on était en Polynésie, il y a une vingtaine d'années. On était en train de faire des photos, donc moi je suis le modèle de mon mari, il fait des photos. Puis il y a une raimanta, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une raimanta, c'est un animal énorme qui a une envergure de 4-5 mètres. On était tous les deux au fond, et la raimanta est venue, vraiment, elle est venue vers nous, elle est venue nous chercher. Elle est venue près de moi et il y avait son œil, c'est un animal énorme, qui était à 10 cm du mien et qui était doux, qui était maternel. Et là, il y a une relation, quelque chose, mais vraiment de l'ordre du divin. Et là, il y a vraiment quelque chose qui a commencé à s'éveiller. Je commençais à faire des liens entre mon vécu, entre ma relation à Dieu et puis ce que je vivais dans la mer. Moi, personnellement, je prie beaucoup mieux à 40 mètres, au fond, que dans une église. Je vais souvent dans les églises, mais quand je suis au fond, au bas d'un tombant, avec le soleil, pour moi, c'est une prière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Souvent, on entend dire « Oh, mais de toute façon, autour de Marseille, la mer, c'est fichu, c'est pollué, c'est plus la peine. » Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Même à notre époque, dès qu'on commence à la protéger, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de protéger, ça vaut le coup de... Par exemple, il y a 40 ans, vous savez, un poisson emblématique de Méditerranée, c'est le mérou. Le mérou, c'est un poisson qui peut, ici, aller jusqu'à 50 kilos. Donc, c'est un gros poisson. Il y a 40 ans, quand on plongeait, les mérous, on cherchait avec des torches dans les trous, et quelquefois, on apercevait un œil de mérou qui était palpité au fond de la grotte, terrifié. Et on disait, oh, on a vu un mérou aujourd'hui, c'était une aventure. C'était extraordinaire. À l'heure actuelle, quand on plonge par exemple à la grotte à Corail, qui est à côté de Cassis, on arrive à 15 mètres. À partir du moment où on se met à l'eau, les mérous sont des poissons très curieux. Ils arrivent. Toc, on en voit un, deux. On arrive à en voir jusqu'à 8 autour de nous. Ils sont hyper curieux. Ils viennent voir et ils n'ont pas peur. C'est extraordinaire. Ça, c'est le résultat du parc des Calanques. De l'interdiction de la chasse aux mérous aussi. Hein. Pour moi, vous avez compris hein, que la mer c'est le vivant, c'est Dieu. Et il y a cette... Moi, je pense toujours, quand je pense à ça, je pense toujours à cette phrase extraordinaire d'Eti Lezoum. Je ne sais pas si vous connaissez Eti Lezoum. Eti Lezoum, c'est une juive qui a été dans les camps de concentration, qui a écrit des lettres et qui s'est énormément rapprochée de Dieu et de la religion catholique aussi. Et Eti Lezoum, enfin moi, il y a une phrase d'Eti Lezoum qui résonne tout le temps en moi et qui fait vraiment... Eti Lezoum dit, elle s'adresse à Dieu et elle dit, « Mon Dieu, je vais t'aider à ne pas t'éteindre en moi. » Et c'est très, très beau, ça. Parce que ça fait vraiment... Pour moi, c'est vraiment... Je vais aider la création à ne pas s'éteindre en moi et en nous. Et tout est lié. Vous voyez ? C'est ce que je ressens, moi, quand je plonge. Ce que je ressens, c'est que la création, la mer, la nature, ça fait vraiment partie de nous. C'est le vivant, c'est Dieu présent, vivant, agissant. Et c'est notre responsabilité de lui permettre d'exister, d'être avec lui. Quand vous êtes, par exemple, en bas d'un tombant et que vous avez le soleil, vous avez les rayons de soleil qui rentrent. Alors c'est très particulier quand on est, par exemple, ici où l'eau est très claire, hein, en Méditerranée. On le voit ailleurs aussi. Hein. Mais vous voyez les rayons de soleil qui joue dans ces fameuses gorgones, avec ces petits bancs de poissons roses, hein, ces petits antias roses qui sont des particuliers de la Méditerranée qu'on voit beaucoup en été. Alors vous avez le rose des petits poissons, vous avez quelquefois des bancs de chinchards, qui sont des genres de petits anchois qui sont dans le soleil, qui sont argentés, qui jouent dans le soleil. Vous avez au fond des bancs de sar qui se mettent en Z comme ça, et que vous êtes à genoux au fond, c'est une cathédrale. Il y a ce silence, parce que quand on est au fond, il y a ce silence qui est rythmé par notre respiration. Hein, quand on plonge, vous avez le bruit du détendeur, hein, ça fait... Et on est rythmé comme ça, et c'est une évidence.
Commune Planète en Provence, un podcast de Dialogue RCF à l'occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille.